Donc j'aimerais prendre avec vous 1 Corinthiens 12, versets 12 à 31. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 31. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas d'une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Donc, il y a quelques semaines, la dernière fois que nous avons ouvert Corinthiens ensemble, on a vu les dons spirituels, et on avait vu que les dons n'étaient pas donnés pour nous-mêmes, mais à chaque fois pour l'utilité commune, donc pour le bien du corps. On avait vu également que c'était le Saint-Esprit qui distribuait selon sa volonté aux uns et aux autres. Et ici, le développement se poursuit avec l'image du corps de Jésus-Christ. Et il reprend un petit peu ces thèmes, il les explique un peu différemment. Il dit que nous avons été baptisés par l'Esprit pour former un seul corps. C'est intéressant ça, parce que il va dire, voilà, soit les juifs, soit les grecs, soit les esclaves, les libres, des gens très différents, hein, de milieux très différents. Et là, il dit, ça y est, en un corps, ils sont tous réunis, ils reçoivent un même esprit, ils sont ensemble. Et c'est ça l'Église, hein. On est des gens très différents les uns des autres. Jamais on n'aurait été ensemble, pour certains, si Christ ne nous avait pas sauvés. On n'aurait même pas regardé certains, ou on aurait été méprisé par d'autres, mais Dieu a fait cette œuvre dans notre cœur, et c'est ça le corps de Christ, c'est l'ensemble des croyants qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Alors nous sommes le corps, et Christ est la tête, donc qui commande, et comme le corps humain a une tête qui va commander les membres et le corps, eh bien, de la même manière, Jésus-Christ est celui qui nous dirige, qui nous conduit. Et nous sommes un corps, chacun pour notre part. Nous sommes un membre dans le corps. Donc, il y a un corps et chacun un membre dans le corps. Et on est liés les uns aux autres. Verset 12, il dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ ?» Et un corps, c'est toujours un ensemble de plusieurs membres qui sont liés entre eux, et il y a un lien invisible, un lien spirituel entre nous. C'est l'esprit. Par l'esprit, eh bien, il y a un lien entre nous, on sait qu'on est liés les uns aux autres. Il arrive parfois qu'un chrétien soit isolé, indépendant, et qu'il marche en solitaire, peut-être pour un moment, hein, quand ça arrive, il ne peut pas dire « je suis le corps de Christ ». Non, il est un membre. Il est un membre là qui est comme séparé, coupé pour un temps, il marche en solitaire, en indépendant. C'est ce que Paul dit au verset 14, il dit « ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres ». Donc le corps, c'est le rassemblement des membres, donc des différents chrétiens qui forment à ce moment-là le corps de Christ. Et chaque assemblée locale est une représentation du corps de Jésus-Christ dont il est la tête. Maintenant, pour ce qui concerne les dons spirituels, ou les dons que Dieu accorde à chacun de ses membres, Paul soulève un des problèmes des Corinthiens, qui pourrait être aussi notre problème, c'est qu'on regardait certains dons, des dons spirituels, comme étant plus dignes que d'autres dons. Donc on élevait d'une certaine manière des personnes en se disant « mais oh, lui, il a un don, c'est un don glorieux ». L'autre, peut-être, on était un peu moins expressif hein, vis-à-vis des autres. Hein. Et il y avait un engouement pour le parler en langue. Un vrai, véritable engouement. C'est-à-dire le don de pouvoir louer Dieu dans une langue étrangère que l'on n'a pas apprise. Donc, c'est ça le don du parler en langue. Et il semble que beaucoup des Corinthiens se disaient que vraiment, mais ça, c'est le don par excellence. C'est vraiment le don que tout le monde aspirait à ce don, que Dieu me donne ça, que je puisse eh bien louer Dieu dans des langues que je n'ai pas apprises. De l'autre côté, il semble que ceux qui avaient un autre don, on va dire, ben, je sais pas, le don de miséricorde ou le don de la libéralité, eh bien eux, ben, ils passaient un peu des moins charismatiques, moins spirituels, moins intéressants. Et au-delà de ces exemples, Paul soulève le problème de personnes qui se sentaient un peu supérieures parce que, ben, eux, ils avaient tel don plutôt que tel autre. Alors, ça peut sembler ridicule, mais c'est une réalité qui existe encore. Ça m'est déjà arrivé d'être dans la rue et de rencontrer un chrétien parce que je distribuais des traités. Et puis, alors, il commence à parler avec moi. Et une des premières questions qu'il me pose, c'est « Est-ce que vous parlez en langue ?» Comme si c'était... chose, mais fondamentale, vraiment, il fallait vraiment parler en langue. Et de l'autre côté, il est possible, malheureusement, d'ignorer, de ne pas faire cas de personnes ben, qui ont peu de dons ou peu de charisme, hein, qui sont plus discrets. Par contre, quelqu'un qui a un don visible, un don de parole ou un don d'enseignement, celui-là va recevoir plus d'attention. Si bien aussi que parfois on peut se dire, mais qu'est-ce que je suis, moi ? Moi, j'ai pas grand-chose entre les mains. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur ? J'ai peu de dons, j'ai peu d'éclat pour le Seigneur. Alors, eh bien, Paul dit, versets 15 et 16, « Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? » Et donc, on voit que, quand on est membre du corps, peu importe ce que l'on est, on est membre du corps. On est vraiment un membre. Et Dieu nous dit que nous faisons tous partie du corps de Jésus-Christ. Peu importe ce que nous sommes ou ce dont nous sommes capables, du moment qu'on a accepté Jésus-Christ dans son cœur, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est né de nouveau, ça y est, on est un membre important pour le corps. On a une place dans le corps. Alors certes, on n'est pas forcément tous une main habile et douée pour faire une multitude de choses, ou on n'est peut-être pas un œil efficace, ou un organe qui peut sembler vital dans le corps. Peut-être qu'on se dit, mais moi je ne suis qu'un pied. Et un pied, eh bien, voilà, c'est vrai qu'il y a la fonction de déplacer le corps, mais un pied, eh bien, il ne construit pas en lui-même, il ne n'écrit pas, il ne fabrique pas, il ne tient rien, il ne saisit rien. Maintenant, si le corps était sans pied, le corps serait immobile. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire du tout. Mais voilà, il est limité. Il peut moins faire, on va dire, qu'une main, à la rigueur. Mais l'important dans le corps de Jésus-Christ, ce n'est pas d'être un membre spécifique avec un don spécifique, comme un œil, une oreille, un pied, une main. C'est pas ça qui a de l'importance. L'importance, c'est d'être une partie du corps. Si je suis une partie du corps, mais ça y est, l'importance est là. J'ai une fonction, j'ai quelque chose à faire dans le corps qui compte. Et c'est ça qui est merveilleux. Paul dit, versets 17 à 20, « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et la beauté et l'efficacité du corps, elle se voit dans la diversité. Nous, en tant qu'êtres humains, on est des créatures qui sont merveilleuses. Merveilleuses. Mais c'est parce qu'il y a une diversité dans notre corps. On n'est pas un bras ou 30 bras collés ensemble. Il y a une diversité dans les organes, dans les membres, dans tout ce que nous sommes. Une multiplicité, on peut dire, de membres et d'organes qui ont des fonctions différentes et qui font que ça y est, c'est ça qui fait que le corps est précieux. Et il n'y aurait pas d'équilibre et pas de vie s'il n'y avait pas la diversité dans le corps. Et c'est vrai pour le corps humain et c'est vrai pour l'Église de Jésus-Christ. Imaginez une assemblée où nous aurions tous le même don et nous ferions tous la même chose. C'est un peu comme ce qui se passait à Corinthe. Ils avaient tous envie de parler en langue. Ah ben, alors, ils parlaient tous en langue, en tout cas, un bon nombre parlaient en langue, mais tous en même temps, c'était la cacophonie, c'était... Ça ressemblait à rien, en fait. Hein. Imaginez que on ait tous envie de jouer d'un instrument. Alors que bon, certains, peut-être, sont plus doués que d'autres, mais ça n'a pas d'importance. On ait tous envie de jouer d'un instrument. Et tous, ben, voilà, vous avez une guitare, une flûte, un pipeau, je ne sais pas quoi. Et tous, on joue ensemble le dimanche matin. Et on fait ça tous les dimanches. Il y a peut-être mieux à faire, hein. Il y a peut-être mieux à faire. Et Paul voulait faire comprendre cela aux Corinthiens. Donc, la beauté du corps, elle est dans la diversité des dons qui s'expriment selon ce que Dieu donne. Paul dit encore, Dieu a placé chacun des membres comme il a voulu. Donc, c'est Dieu qui est aux commandes et qui va placer l'un ici, placer l'autre là, pousser l'autre dans une autre direction, lui donner quelque chose, l'établir, le former, l'équiper pour une chose. Et certainement, ce qu'il faut faire, c'est dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce qui est un don naturel qui peut être sanctifié entre les mains de Dieu ? Parce qu'un don naturel a aussi besoin d'être sanctifié. Hein ? Il ne s'agit pas de « Ah ben, je sais faire ça depuis toujours, je vais le faire ». C'est bien, mais je vais le faire avec le Seigneur, dans le Seigneur. Ou bien, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et peut-être tu veux que je développe et que tu m'as donné, un don que tu m'as donné, et tu veux que je mette à ton profit, que je serve au travers de toi et par toi. Et c'est lui qui doit faire la chose, et non pas nous non plus, hein, qui doit nous emparer de la chose. Et donc, c'est nécessaire qu'il y ait plusieurs membres avec des fonctions différentes. Et c'est Dieu qui veille à ce qu'il y ait une complémentarité dans l'Église locale, dans le corps de Jésus-Christ. Vous connaissez, je vous avais déjà parlé, mais peut-être vous avez vu vous-même sur Internet, Nick Vujicic. Donc, c'est un chrétien, donc australien, je crois, de naissance, qui est né sans bras et sans jambes. Vous avez... peut-être pas vu, vous pouvez taper Nick Vujicic, c'est vraiment intéressant. Hein. Intéressant de voir ce jeune homme qui est chrétien, né dans une famille pastorale, il est le 3e ou 4e enfant, tous les enfants, aucun problème, mais celui-là, il est né sans bras, sans jambes. Il n'a qu'un tronc, une tête, et puis un petit moignon qui l'aide à avancer, hein, à tenir debout, et à faire quelques petites choses comme cela. Et c'est effarant, quoi, de... Incroyable de le voir évoluer dans sa maison, de le voir plonger dans sa piscine, nager sur le dos, se brosser les dents, mettre un CD pour écouter de la musique. C'est incroyable, incroyable. Il arrive quand même à faire des choses sans bras et sans jambes. Et maintenant, eh bien, il parcourt le monde et puis il témoigne de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Nous, on a les bras et les jambes. Hein, et comment dire ? Lui, il dit « Dieu vous aime ». Est-ce qu'on ne peut pas croire que Dieu nous aime ? Bien sûr que Dieu nous aime. Il arrive à faire des choses malgré ce qu'il est. Et Dieu se sert de lui pour sa plus grande gloire. Et ça fait réfléchir aussi, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes en se disant, mais peut-être que moi aussi, j'ai une faiblesse, j'ai un handicap, mais Dieu peut faire des choses merveilleuses au travers de moi, malgré mon handicap, malgré ma faiblesse. Il peut faire des choses merveilleuses, comme il fait des choses merveilleuses avec ce jeune homme qui se laisse modeler entre les mains de Dieu. Il loue son Sauveur, il loue son Seigneur, alors qu'il pourrait être à passer sa vie dans le murmure et dans la rancœur. Et non, il est dans la louange. Pourquoi ? Parce que Nick Vujicic, il est aussi crucifié. Il a accepté de mourir à soi-même. Il a dit, Seigneur, ben voilà, tu m'as fait comme ça, il y a une raison, je veux te glorifier comme je suis. Et alors, eh bien, Dieu se sert de lui. Il le remplit, et cet homme, vraiment, quand vous regardez son témoignage, vous l'écoutez, vous voyez qu'il est comblé de la vie du Seigneur dans toute sa faiblesse. Et Dieu peut faire quelque chose avec nous, malgré un handicap, si on le veut. Maintenant, c'est sûr, il y a des limites. Nick Vujicic ne peut pas tout faire. Hein. Et je voulais aussi prendre cet exemple pour montrer qu'on a besoin aussi des membres pour fonctionner efficacement. Et c'est la même chose dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église, elle avance et elle peut avancer. Elle peut même avancer avec 3 personnes qui finalement ne peuvent pas rassembler l'ensemble des dons. Ce n'est pas possible. Mais elle peut quand même avancer. Mais elle sera un peu comme Nick Vujicic, un peu handicapée. Mais Dieu fera grâce et Dieu fait les choses. Mais le meilleur, c'est quand eh bien, l'Église, petit à petit, peut avoir tous les dons. Et que ces dons peuvent s'exprimer et que les uns et les autres peuvent servir, faire quelque chose. Et c'est vraiment la complémentarité qui permet l'efficacité du corps. Et assurément, Dieu veut équiper chaque église locale avec tous les dons. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Vous vous souvenez, au début de l'Épître aux Corinthiens, il dit « Vous avez tous les dons ». Il se réjouit, il dit « Vous avez tous les dons ». Mais c'est ce que Dieu veut. Il veut vraiment accorder les dons. Dieu veut nous remplir de son esprit et qu'on puisse eh bien, le servir d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que nous soyons irremplaçables. On peut toujours remplacer quelqu'un. Dieu peut toujours remplacer quelqu'un. Personne n'est irremplaçable. Néanmoins, eh bien, Dieu quand même veut équiper chacun, peut-être avec plus de force, de puissance, de grâce, d'esprit, pour faire quelque chose. Johnny Erickson Tada, vous connaissez cette chrétienne tétraplégique, qui est capable de peindre avec sa bouche. Elle met le pinceau dans la bouche, elle le trempe, et puis elle peint, et elle fait des belles choses. Hein. Et bon, c'est vrai que c'est quand même plus facile avec la main. Tenir le pinceau, le tremper, l'essuyer, voilà, faire les courbures, etc. C'est toujours mieux d'avoir la main. Maintenant, on voit que le corps a une faculté d'adaptation. Si on est privé de quelque chose, eh bien, on va réussir à se débrouiller autrement pour le faire. C'est vrai pour l'Église, mais c'est toujours mieux d'avoir tous les membres et les membres qui puissent servir ensemble. Dieu a fait en sorte que les membres soient interdépendants dans le corps et on a besoin les uns des autres pour avancer ensemble. C'est une particularité, la particularité de l'Assemblée chrétienne, la complémentarité dans l'interdépendance. On se complète et on est dépendant les uns des autres. Versets 21 à 25. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et c'est vrai que dans le corps, et dans le corps humain, il y a des parties qui sont plus attrayantes que d'autres. Hein. Par exemple, les pieds, ce n'est pas la partie la plus attrayante de notre corps. Et pourtant, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans les pieds, hein?
Dès qu'on a un petit bobo, on va se soigner. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le marathon des sables, je crois, au Maroc. 240 km. Je crois qu'il parcourt en 6 jours. 6 jours, il court, il court, il court. Il raconte que certains abandonnent parce qu'ils ont des cloques géantes. Forcément, dans les sables, là, une fois que les pieds ne peuvent plus, le corps ne peut plus, c'est terminé. Hein. On s'arrête. On s'arrête. On a vraiment besoin des pieds. Et si les pieds ne sont pas ce qu'il y a de plus attirant, eh bien, on va en prendre bien soin parce qu'on sait que c'est vraiment indispensable. Et certains dans l'Église de Jésus-Christ ont peut-être des qualités qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas voyantes, mais Dieu fait en sorte que, bien, ces personnes-là, on en prend soin. On veille sur elles et on les entoure. Si on prend le corps humain, il n'y a rien d'inutile. Chaque chose a une fonction. Et même un petit orteil, ben, il compte pour l'équilibre. Hein. Est-ce que quelqu'un a envie de se faire couper le petit orteil? Non, hein, on veut garder tous ses orteils. On veut garder tous ses doigts parce que ben, chacun a une utilité, parce que le corps, c'est un tout. Et tout se complète. Hein. Et il en est de même avec l'Église de Jésus-Christ. Alors, eh bien, on va prendre un soin de chacun. Vraiment. Néanmoins, c'est vrai aussi que parfois, le corps, on l'ampute, on le coupe. C'est pas quelque chose d'impossible, amputer un membre. Ça arrive dans des situations qui sont graves et irréversibles, on ne peut pas faire autrement. Par exemple, des personnes diabétiques ou celles qui ont eu une blessure, qui sont infectées, on se retrouve parfois contraint, hein, il faut amputer le membre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une gangrène, donc une nécrose des tissus. En fait, c'est la mort, quoi. C'est une partie du corps qui est morte. Et s'il y a mort, ben, il y a danger que la mort elle se propage dans le corps. Alors là, eh bien, on intervient et on coupe pour protéger le corps. C'est radical et c'est bien sûr en dernier recours. C'est vraiment, s'il n'y a pas de choix, pas d'autre solution, ben là, il faut le faire. C'est vrai aussi pour le corps de Jésus-Christ. S'il y a le péché qui commence à infecter, commence à gangréner un membre, et si ce péché a tendance à se répandre, le corps est en danger. Il est vraiment en danger. Alors parfois, ben, il faut amputer. Ça fait mal, c'est nécessaire, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire n'importe quoi dans le corps de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a dit au chapitre 5 dans 1 Corinthiens. Vous vous souvenez, cet homme donc, qui avait pris la femme de son père. En fait, son père était veuf, il avait repris une femme, et le fils, qui était déjà grand, eh bien, avait couché avec la femme de son père. Et apparemment, il le faisait, ça se refaisait. C'était au vu et su de l'assemblée. À ce moment-là, eh bien, Paul dit, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Donc c'était une amputation qui a pris la forme d'une exclusion. L'assemblée l'a mis dehors. L'assemblée ne voulait plus avoir de contact avec cette personne parce qu'il n'y avait pas une repentance et il n'y avait pas un changement d'attitude. Parfois, vous savez, les alpinistes, ils montent très haut. J'ai parfois du mal à comprendre, mais peut-être qu'il y a un plaisir à monter sur les hauteurs, à se trouver seul, là-haut, hein. Certains l'expriment comme ça, mais aussi, parfois, ils perdent un orteil ou un doigt, parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est les nerfs qui gèlent. Donc, le nerf est mort. Si le nerf est mort, ben, ça y est, la partie est morte, et là, ça va gangréner, hein, encore. Hein. Et c'est intéressant, parce que c'est le nerf qui gèle, le nerf qui est mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de sensibilité. On arrive à une insensibilité. Et c'est vrai pour le corps de Jésus-Christ. Si un membre devient insensible, s'il est plus sensible au Saint-Esprit pour faire ce que l'Esprit commande, alors eh bien, il va devenir nuisible au corps. Petit à petit, il commence à faire des choses qu'il ne faut pas. Et puis, il désobéit. Et puis après, ben, ça devient un danger, ça devient un vrai problème. Si un membre n'est pas vivant, marchant avec Jésus-Christ, ou s'il n'est pas sauvé, et donc il n'est pas sensible, eh bien, il y a un vrai danger pour le corps. Dans l'Église, ça peut se traduire par quelqu'un qui va semer la zizanie, par quelqu'un qui va semer le désordre, quelqu'un qui va être dur et qui va donner des coups aux uns et aux autres, quelqu'un qui va médire, quelqu'un qui va calomnier un cran au-dessus, quelqu'un qui ne va pas pardonner, quelqu'un qui va diviser les frères. L'apôtre Paul, il en parle souvent, hein, quelqu'un qui sème la division, attention. Quelqu'un qui garde la haine dans son cœur. Et cette haine, eh bien, se répand. L'insensibilité conduit à la désobéissance. Et la désobéissance, elle conduit à plein de péchés. Alors, eh bien, l'amputation, elle restera normalement et heureusement. C'est vraiment, s'il n'y a plus de solution, là, il faut le faire. Ce qui veut dire que d'abord, le corps et notre corps va tout faire pour essayer de soigner la partie du corps qui est malade, blessée ou qui ne va pas bien, qui nous fait souffrir. C'est le corps qui va se mobiliser pour essayer de guérir ce qui ne va pas, soulager ce qui nous fait souffrir. Verset 26, il dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Et on va pas rester indifférent s'il y a un membre qui souffre. Parce qu'on est liés ensemble et on veut le bien du corps tout entier. Quand on se voit, quelqu'un ne va pas très bien, il dit oh, ben, j'ai mal dormi, ou j'ai une douleur au dos, ou j'ai mal à la tête, ou j'ai des rhumatismes. Donc oui, ça va, mais ce n'est pas l'idéal. Hein. L'idéal, c'est faites la forme, en pleine forme. Ça, c'est l'idéal. Et c'est vrai que on peut faire avec un corps qui souffre. On en parlait un petit peu ce matin avec quelqu'un. Beaucoup font avec un corps qui souffre. On a des choses chroniques. C'est là, on vit avec. On sait, ça revient. Moi, c'est un peu plus fort. On vit avec. On apprend à vivre avec. C'est notre lot à tous. Mais l'idéal, c'est un corps en bonne santé. Et c'est vrai qu'une église, elle peut faire avec quelqu'un qui souffre spirituellement et au-delà. Mais l'idéal, c'est quand on est en bonne santé. C'est là où le corps peut agir, peut vivre, peut glorifier le Seigneur. Quand tous les membres se portent bien avec Christ et se portent bien les uns avec les autres, eh bien là, c'est rafraîchissant. Être en paix et en communion. Alors on va prier que Dieu intervienne, prier que Dieu soulage, bénisse. Et si la guérison arrive, alors on va être dans la joie. Paul dit, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et le corps se réjouit du bonheur, se réjouit du bienfait qui se passe aussi dans la vie de son frère, de sa sœur. Et c'est aussi notre part, parce que si les membres vont bien, eh bien tout le corps est heureux, tout le corps se réjouit. Et on loue le Seigneur ensemble. Et c'est valable pour le corps physique et le corps spirituel. Aussi, l'important, ce n'est pas le don en soi, mais c'est surtout la fidélité au Seigneur pour faire ce qu'il nous demande de faire. C'est ça l'important, être fidèle. C'est vraiment ça qui est important. Être fidèle là où Dieu veut que nous soyons pour faire ce que Dieu veut que nous soyons, que nous faisions. C'est vraiment important. Et si le corps ne va pas bien, ça peut être parce que il y a un membre qui souffre, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a un membre qui ne bouge plus, qui n'agit plus, qui n'est pas prêt à servir. Si vous avez un rein qui arrête de fonctionner ou les poumons qui arrêtent de respirer, ça ne peut pas aller bien. Et c'est aussi faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça l'important, qu'on puisse être actif. Parfois, on est en sommeil. On est dans le corps. Mais en sommeil. Certains ont un problème avec la glande thyroïde, la glande ne travaille plus, elle n'agit plus comme il faut. C'est important d'être actif, c'est important de faire, d'agir. Et Dieu veut que nous soyons vivants, en vie, et que on puisse être utile, et que l'Esprit nous porte et nous aide à le servir. C'est là où la vie prend de la valeur. C'est là où on se lève le matin, on sait pourquoi on vit. Je vis pour le Seigneur. Et le Seigneur se sert de moi, et je le vois se servir de moi. Et je lui rends gloire, et je suis heureux. Heureux d'être une part dans son œuvre et dans son plan. Et on peut sommeiller aussi, et ne plus rien faire. Et puis on est là, on attend que ça passe. Et on peut attendre un mois, deux mois, un an, 10 ans. Être fidèle là où Dieu veut que nous soyons fidèles. Il n'y a pas de prix à cela. Il n'y a pas de prix, c'est vraiment le plus important. Et parfois les dons, vous savez, les dons les plus visibles peuvent cacher une infidélité profonde. Et les dons les plus cachés et les plus invisibles peuvent parfois cacher une fidélité vraie et profonde. L'important, c'est de vraiment avoir une marche fidèle, une marche où on prend la place que Dieu nous donne. Aussi, ce qui ne peut pas aller, c'est quand une main gauche, par exemple, veut faire ce que devrait faire la droite. Hein ? Là, ça ne peut pas aller. Je ne sais pas si vous êtes droitier, mais est-ce que vous avez déjà essayé de tenir un clou et avec la main gauche taper le clou ? Il y a de fortes chances que c'est votre doigt que vous tapiez. Hein ? Parce que, voilà, on est doué pour une chose et... Si on se met à faire des choses pour lesquelles on est moins doué, bah c'est moins bien, c'est sûr. C'est sûr, s'il n'y a personne d'autre, on va le faire. Et on fera tant bien que mal. Mais s'il y a mieux, là, c'est mieux. C'est ça que veut le Seigneur. Et le problème, c'est que quand on ne fait pas ce que Dieu veut, et qu'on se permet de faire ce qu'il ne nous demande pas de faire, et bien on tape le corps, on tape ailleurs et on fait mal. On fait mal et on fait mal au corps. Et donc, non, il ne faut pas le faire. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc on est chacun une partie du corps de Jésus et c'est le Seigneur qui veut nous animer, qui veut nous conduire parce qu'il est la tête. Alors eh bien, il faut rester sous ses ordres, suivre, obéir et acceptons d'être ce qu'il veut que nous soyons. Verset 28 à 30. On arrive vers la fin maintenant. 28 à 30, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Donc là, il cite des dons. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il cite simplement quelques dons comme cela. Et on voit ici, de nouveau, que c'est Dieu qui est établi. Donc c'est lui qui choisit qui fait quoi. Donc il a posé le fondement de l'Église. Le fondement, c'est la base, hein, avec les apôtres, les prophètes. Et puis ensuite, il dit que l'Église s'est édifiée avec le don de l'enseignement. Et puis ensuite, il va citer une succession de dons. Et c'est intéressant parce qu'il va placer le don des langues à la fin, avec le don d'interpréter qui est lié. Hein. Mais il le place en dernier, tout à la fin. Et il le fait exprès. Il le fait inspiré par Dieu. Le but, c'était de leur signifier qu'il ne fallait pas élever ce don-là comme étant au-dessus de tous les autres dons et le mettre en tête de liste. Non, Paul le met à la fin. C'est un don, c'était un don à l'époque des apôtres qui était parmi les autres et rien de plus. Ensuite, pourquoi Paul dit « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous parlent-ils en langue ?» Pourquoi il leur dit ça? Il leur dit parce que c'était un vrai problème à Corinthe. On pensait, mais il faut tous parler en langue. Et Paul leur dit, mais non. Il se disait, mais ça c'est le don par excellence, supérieur, il faut parler en langue. Je vous disais en introduction qu'il arrive parfois de rencontrer des chrétiens, et la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce que vous parlez en langue? Pour eux, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que pour eux, le parler en langue, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Donc il se dit, si elle parle en langue, alors elle a le Saint-Esprit, alors c'est un frère, alors c'est une sœur. Donc c'est pour ça que c'est important de poser cette question pour eux. Mais ça, c'est un enseignement erroné et qui amène la confusion. erroné et qui apporte la confusion. D'abord erroné, parce qu'il n'a jamais été dans la volonté de Dieu de donner le parler en langue à tous ses enfants. Ça n'a jamais été dans la volonté de Dieu. Et Paul le dit explicitement dans la fin de ce chapitre. Il pose des questions, et les questions conduisent à une réponse. Donc, il dit, tous sont-ils apôtres ? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes ? Non. Tous sont-ils docteurs ? Non. Et puis il en vient à cette dernière question, tous parlent-ils en langue ? Ben non. Non. Donc c'est complètement faux de dire que le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est d'avoir le don des langues. C'est faux. Et on est des millions de chrétiens baptisés du Saint-Esprit, puisqu'il est dit au début du chapitre là que nous avons tous été baptisés, abreuvés d'un même esprit. Et pourtant, nous ne parlons pas en langue. Il y en a des millions et des millions qui ne parlent pas en langue. Donc c'est un enseignement qui est faux. Ensuite, c'est un enseignement qui apporte aujourd'hui la confusion. Pourquoi ? Parce que si le parler en langue d'aujourd'hui, actuel, était celui décrit dans la Bible, c'est-à-dire la xénolalie, la capacité à parler des langues étrangères, alors ça ne poserait aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaîtrait immédiatement un chrétien qui se met à louer Dieu en russe, ou qui se met à louer Dieu en finlandais, ou à louer Dieu en chinois. Et qu'est-ce que ça provoquerait ? Ben alors là, c'est... Bon, ça coupe, ça met les gens à genoux, parce qu'on se dit, mais mince, comment lui, qui ne parlait pas finlandais la semaine dernière, il se met à louer Dieu dans un parfait finlandais. Et là, les inconvertis, ils en tombent aussi à genoux. C'est merveilleux, un vrai don du parler en langue. C'est un vrai miracle. Mais le parler en langue d'aujourd'hui n'est plus une langue étrangère comme celle de Corinthe ou comme celle de Pentecôte dans les Actes. Il a été remplacé aujourd'hui par un parler en langue des anges, donc selon ceux qui le pratiquent. Et partout où ce don est pratiqué, et on peut écouter, c'est toujours une langue inintelligible et qui est composée de syllabes répétitives. Et à chaque fois, ça se retrouve. Et à chaque fois, on dit, c'est la langue des anges. Le problème avec ça, c'est qu'on entend des chamans, on entend des spirites, on entend des catholiques charismatiques qui continuent à adorer Marie, à prier Marie. On entend même des personnes avec des troubles psychiques. Chez certains schizophrènes, c'est perçu comme de la confusion mentale. Et donc, il y a toutes ces personnes différentes qui peuvent parler une langue semblable, avec des sons qui sont semblables, avec des syllabes qui sont répétitives. Et là où ça pose problème, c'est que ça signifie que n'importe qui peut parler cette sorte de parler en langue, même ceux qui n'ont pas l'esprit. Mais si on croit que celui qui parle comme ça, il a été baptisé du Saint-Esprit, vous voyez le problème ? C'est qu'on commence à entendre quelqu'un qui parle, on se dit « Ah ben, il a été baptisé du Saint-Esprit. » C'est un frère, c'est une sœur. Et là, ben non, c'est peut-être pas une sœur, c'est peut-être pas un frère. Parce que peut-être c'est charnel. C'est juste, ça peut être du mimétisme, hein, et voilà. Et donc, on se retrouve avec un vrai problème. Parce que si c'est vraiment le signe du baptême du Saint-Esprit, alors après, il y a un mélange d'ivraie et de bon grain. Alors, il y a du bon grain. Et il y a du bon grain qui parle de cette manière. Que Dieu bénisse chacun. Mais il peut y avoir un mélange. Et il y a un mélange. Ça arrive. C'est une vérité. On va développer ce sujet du parler en langue. Ce n'est pas vraiment le sujet du chapitre, c'est juste la fin. Mais Paul a consacré un chapitre complet, chapitre 14, rien que pour ça. Donc on va consacrer un chapitre. Donc la prochaine fois qu'on fera le chapitre 14. Mais en substance, Paul dit, ce n'est pas un don qu'il vous faut rechercher. Il dit, si vous parlez en langue, si vous l'avez, faites-le. Mais il leur dit, ce n'est pas le don qu'il faut rechercher. Il leur dit ça il y a 2000 ans. Eh bien, ce n'est définitivement pas aujourd'hui un don qu'il faille rechercher. Paul termine, Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et donc, voilà, il ouvre la porte. On va entrer dans le chapitre 13, ce merveilleux chapitre hein, qui nous parle de l'amour. Comment le corps de Jésus-Christ, qui est composé de membres si différents les uns des autres, peut rester lié, uni, accordé ensemble sous les ordres de la tête? Il n'y a qu'une solution. Il faut que Dieu répande son amour. Si on n'a pas l'amour de Christ, ce n'est pas possible. Il faut l'amour de Jésus-Christ. Il faut que vraiment ça, voilà, cette voie par excellence, comme le nomme l'apôtre Paul, elle remplisse nos cœurs. Et alors, eh bien, on pourra marcher ensemble. Et j'aimerais juste terminer avec un verset. Un verset des Proverbes. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les choses. La haine excite des querelles. L'amour couvre toutes les choses.